Les dix commandements. Étude CB 017. Christ, en tant que l'ange de l'Alliance, a donné la loi à Moïse au Sinaï. Il a dit qu'elle ne passerait pas. Les dix commandements représentent et nous montrent l'esprit et l'intention de la loi de Dieu. Dieu le Père et Eloah seul a toujours existé. Il connaissait la fin dès le commencement. À un moment donné, Dieu a décidé de créer une famille. Il savait que sa famille aurait besoin de directives pour avoir une vie heureuse et productive. La Bible nous montre que Dieu et sa loi sont saints, justes, bons, parfaits et vérité, et que lorsque nous suivons les lois de Dieu, nous sommes bénis. Dieu et sa loi ont toujours existé. Pour plus d'informations, voir Qui est Dieu, CB 001, et la création de la famille de Dieu, CB 004. Lorsque nous voyons un feu rouge, que faisons-nous? Nous nous arrêtons. Pourquoi nous arrêtons-nous? Parce que c'est la loi. Pourquoi cette loi est-elle en vigueur? Pour sauver des vies. Tous les parents ont des règles, directives, pour leurs enfants, n'est-ce pas? Nous connaissons toutes les règles que nos parents ont pour nous, bien que nous les oublions parfois. Pourquoi édictent-ils ces règles? Parce qu'ils veulent garder leurs enfants en sécurité. Toutes ces règles et directives sont pour notre protection. C'est exactement la raison pour laquelle notre Père Céleste, qui nous aime, nous a donné des lois, pour notre protection. Dieu nous a donné ces dix commandements pour la même raison que nos parents nous donnent des règles à obéir, parce qu'ils nous aiment et veulent nous protéger et nous empêcher de nous faire du mal et d'en faire aux autres. La loi de Dieu était en place dans le jardin d'Éden, sinon le péché n'aurait pas existé. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les commandements existaient avant que Dieu ne donne les pierres à Moïse sur le mont Sinaï. Avant que Dieu ne donne les commandements, il a dit à Israël dans Exode, chapitre 19, verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Version Louis II. Nous voyons dans Exode chapitre 34 verset 28 que Dieu parle des dix commandements en tant que les paroles de l'alliance. Nous lisons dans Exode 34 verset 28. « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. » Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Si aujourd'hui nous lui obéissons entièrement et si nous observons son alliance, il nous bénira et nous protégera, tel qu'il a promis de le faire à ce moment-là. Bien que Dieu ait donné de nombreuses lois, jugements et ordonnances dans la Bible, les dix commandements sont au cœur de tous parce qu'ils démontrent l'amour, d'abord envers Dieu, puis envers tous nos semblables. Ils sont si importants pour Dieu que non seulement il a demandé à l'ange de la présence, entre parenthèses Jésus-Christ, de les prononcer au peuple, mais il a également demandé à l'ange de les écrire avec son propre doigt, pas seulement une fois, mais deux fois. Voir Exode 31, verset 18 et chapitre 34, verset 1. S'ils sont si importants pour Dieu, ils doivent aussi devenir importants pour nous. Combien d'entre nous peuvent réciter les dix commandements? Nous ne pouvons pas nous attendre à suivre et obéir le commandement de Dieu de les observer si nous ne les connaissons pas. Nous allons maintenant lire chacun des commandements et voir ce que Dieu ordonne à tous, partout, de tous les âges, jeunes et vieux, de faire. Puis nous en discuterons et verrons comment ils s'appliquent dans nos vies. On les trouve dans Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5. Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Version Louis II. Les quatre premiers commandements nous montrent comment aimer Dieu. Les six derniers, à commencer par le cinquième commandement, nous indiquent comment aimer les autres. Tous sont résumés dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Nous lisons dans Matthieu chapitre 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ce texte ci-dessus est la réponse donnée par Christ lorsqu'on lui a demandé quel était le grand commandement de la loi. Nous pouvons donc voir que ces deux commandements résument toute la loi. Pour plus d'informations, voir la leçon « La loi sur nos montants de portes » CB 080. Examinons maintenant chaque commandement individuellement et voyons exactement ce que Dieu nous dit. Premier commandement, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le premier commandement nous montre que nous ne devons adorer personne d'autre que Dieu le Père. Cela inclut la prière. Ceci est différent des autres religions qui prient de multiples dieux, entre parenthèses, y compris Jésus-Christ, ou même Marie. Nous comprenons que la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu, et que c'est lui seul que nous adorons. Dans Matthieu 4, verset 10, Jésus-Christ renforce ce point. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Version Louis II. Les autres dieux peuvent être tout ce que nous plaçons en premier dans nos vies. Dieu nous dit donc de veiller à le placer en premier et de nous soucier davantage de ce qu'il dit que de ce que quelqu'un d'autre dit. À plusieurs endroits dans la Bible, il nous dit que, si nous l'aimons, nous observerons ses commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Les observer montre notre amour pour lui et c'est de nous son peuple. En échange de notre obéissance, il nous bénira et nous protégera. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le deuxième commandement s'appuie sur le premier et interdit absolument d'adorer ou de se prosterner devant les statues, les crucifix, entre parenthèses croix, les étoiles de David, les animaux, ou d'utiliser toutes sortes d'images ou de représentations dans notre culte d'adoration à Dieu. Nous ne pouvons pas adorer quoi que ce soit ou qui que ce soit, sauf Dieu. Dans le Nouveau Testament, cela est expliqué plus en détail dans l'Épître aux Romains, où il est question d'adorer uniquement Dieu et non la création. Nous lisons dans Romains chapitre 1, versets 20 à 25. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Version Louis II. Il est intéressant de noter que la religion catholique romaine ne cite pas ce commandement comme étant le troisième. Elle supprime ce commandement de sa liste et divise le dixième commandement en deux commandements distincts. C'est pourquoi il y a beaucoup d'idoles et de statues dans la religion catholique. Ce n'est pas acceptable selon les instructions de Dieu dans la Bible. Examinons maintenant les mots que nous utilisons pour adorer et parler de Dieu. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le nom de Dieu est spécial. Il identifie qui il est et ce qu'il fait. Nous devrions seulement l'utiliser avec un très grand respect, révérence et admiration, crainte, et jamais en colère, dans les argots ou jurons. La manière dont nous utilisons le nom de Dieu montre nos sentiments envers lui. Le craignons-nous correctement et le vénérons-nous comme nous le devrions? Ce commandement ne signifie pas que nous ne pouvons pas utiliser le nom de Dieu lorsque nous parlons de lui ou que nous prions, mais nous devons faire attention à ne pas prononcer son nom de manière irréfléchie. Dans le monde d'aujourd'hui, les expressions comme « OMG » entre parenthèses « Oh mon Dieu » ou « TGIF » entre parenthèses « Dieu merci, c'est vendredi » doivent être évitées car elles n'honorent pas Dieu le Père. Ces exemples montrent que les gens ne parlent pas vraiment de Dieu ou ne prient pas Dieu, mais qu'ils utilisent son nom de manière irrespectueuse. Nous allons voir maintenant quels jours sont saints pour Dieu. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat hebdomadaire est le 7e jour de la semaine ou samedi. Beaucoup de gens pensent qu'ils observent ce commandement sans se rendre compte qu'ils observent le sabbat le mauvais jour. Les désobéissants ne voient pas pourquoi le jour de la semaine qu'ils sanctifient fait une différence. Mais écoutez ce que Dieu a dit à propos du jour du sabbat dans Exode 31 au verset 13 à 17. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Version Louis II. Cela était vrai à ce moment-là, et c'est vrai aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. Voir Hébreux chapitre 13 verset 8. C'est un signe entre Dieu et son peuple pour toujours. Observer le sabbat du 7e jour nous identifie en tant que son peuple. Regardons maintenant quand et comment Dieu a créé le sabbat dans Genèse chapitre 2 verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Version Louis II. Après avoir terminé sa création physique et avoir créé l'homme, Dieu a fait le sabbat pour l'homme. Nous lisons dans Marc chapitre 2 verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Il ne l'a pas fait juste pour Israël, mais pour tous les hommes. Il l'a fait en se reposant lui-même. Ensuite, il l'a béni et l'a sanctifié, rendu saint. Il s'est reposé et l'a béni, et il nous ordonne de nous reposer et de le garder saint. On ne peut trouver nulle part dans la Bible où Dieu a changé cela. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres observant le sabbat. L'apôtre Paul nous dit que nous devons l'imiter comme il a imité Christ. Voir 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Dieu seul peut sanctifier, rendre une chose sainte. Il a choisi le 7e jour de la semaine pour le rendre saint. nous pouvons choisir, décider d'obéir ou de désobéir pour le garder saint. Quand Dieu nous dit de nous reposer le jour du sabbat, il ne nous dit pas d'être seulement assis oisivement en restant les bras croisés et de ne rien faire. C'est un jour spécial. C'est un temps pour une assemblée solennelle avec d'autres gens qui croient comme nous. C'est un temps pour adorer notre Créateur et passer du temps avec lui, en cherchant à mieux le connaître et pour nous rapprocher de lui. C'est un temps pour cesser de nous concentrer sur nos activités normales et nous concentrer sur le renouvellement spirituel de notre esprit. Ésaïe chapitre 58, versets 13 à 14, nous dit que Dieu veut que nous appelions le sabbat un délice. Ésaïe chapitre 58, versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Version Louis II. La Bible a beaucoup à dire sur le sabbat. Nous devons savoir ce que Dieu pense de son sabbat qu'il a fait pour nous, et pourquoi. Voir aussi les documents « Le jour du sabbat, CB021 » et « Les jours de sabbat du seul vrai Dieu, CB133 », ainsi que la leçon « Les jours de sabbat du seul vrai Dieu, CB133-2 ». Dans les documents ci-dessus sur le sabbat, vous apprendrez que les jours saints et les nouvelles lunes de Dieu sont une extension du sabbat hebdomadaire et sont donc également inclus dans ce commandement. Le quatrième commandement termine la première section des 10 commandements qui nous montre spécifiquement la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Le reste des 10 commandements nous enseigne comment Dieu veut que nous nous comportions, soyons en relation avec l'humanité. Cinquième commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le cinquième commandement est le premier commandement qui inclut une promesse que nos jours peuvent être prolongés. Comment le fait d'honorer nos parents peut-il rendre notre vie plus longue? Premièrement, si nous obéissons à nos parents, nous ne nous livrerons pas à des habitudes destructives comme les drogues, l'immoralité, entre parenthèses promiscuité, le mensonge, le vol, la tromperie et autres comportements destructeurs. Aussi, si nous obéissons et honorons nos parents, Dieu nous bénira. Comment honorons-nous nos parents? En montrant du respect pour eux, en leur obéissant, en étant courtois et poli avec eux, et en suivant leur exemple comment ils suivent Dieu. Dieu désire notre obéissance par-dessus tout. Il dit que c'est ainsi que nous lui démontrons notre amour, et nos parents n'en veulent pas moins de nous. Il est nécessaire d'enseigner ce commandement aux enfants à un très jeune âge, parce que apprendre à obéir à ce commandement nous aide à commencer une habitude pour toute la vie de respecter l'autorité, les règles et les lois, tant les lois de Dieu que des hommes. Puis, quand nous vieillirons, nous n'aurons aucune difficulté à transférer l'amour, l'obéissance et le respect que nous avons pour nos parents à notre Père Céleste. Sixième commandement, tu ne tueras point. La vie est un don précieux de Dieu et, puisque seul Dieu peut créer la vie, lui seul peut décider quand une vie devrait se terminer. La société d'aujourd'hui est tellement loin de Dieu et de ses instructions que le meurtre est utilisé dans les films et à la télévision pour le divertissement. D'une manière générale, la violence dans le monde et dans toutes les formes de divertissement est devenue monnaie courante. Mais Dieu dit dans Matthieu chapitre 5 que nous ne devons même pas nous fâcher contre notre frère. La voie de Dieu est la voie de l'amour, pas des conflits, querelles. La Bible nous enseigne qu'il y a, en fait, un temps pour être fâché, mais nous devons nous assurer que notre colère est dirigée contre l'injustice et les actes de péché, pas contre les gens. Il y a aussi certains actes pour lesquels Dieu permet à un gouvernement d'imposer la peine de mort pour le bien de la société et aussi pour que les individus puissent se défendre. Cela ne viole pas le sixième commandement. Septième commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Parce que le mariage est ordonné par Dieu, il nous ordonne d'être fidèles à notre mariage. Le mariage est une promesse d'être fidèles l'un à l'autre. Dieu veut toujours que nous tenions nos promesses afin qu'il puisse nous bénir. Si nous enfreignons ce commandement, cela devient difficile pour toutes les personnes concernées et brise la structure familiale. Ce commandement ne fait pas seulement référence à l'infidélité dans le mariage ou au fait d'être infidèle, mais aussi à toute impureté morale avant ou après le mariage. Nous devons apprendre à regarder les situations avec les yeux de Dieu et non avec ceux du monde. La pureté dans les actes et les pensées est si importante pour Dieu que Christ nous dit dans Matthieu chapitre 5 versets 27 à 28 « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Version Louis II. Nos relations physiques nous renseignent sur nos relations spirituelles. Par conséquent, il est important de considérer avec qui nous passons du temps et ce que nous faisons, car ces choses pointent vers notre futur mariage avec Christ, l'époux de l'Église. Huitième commandement. Tu ne déroberas point. Chacun a le droit de posséder des biens. Dieu a donné ce droit à chacun d'entre nous, et le huitième commandement protège ce droit. Nous avons uniquement droit à ce que nous gagnons en travaillant ou ce que nous recevons en cadeau. Si nous obtenons quoi que ce soit d'une autre façon, ce n'est pas correct. Cela s'applique aux résultats scolaires, à l'argent ou aux choses. Dieu commande que nous respections les droits des autres et leurs propriétés de la même façon que nous voulons que les autres respectent les nôtres. Il y a plusieurs façons de voler, comme ne pas donner une journée honnête de travail pour le salaire reçu, ou emprunter une chose et ne pas la retourner. Il y a plusieurs autres exemples. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10, démontre que nous pouvons voler Dieu. « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Version Louis II. Il existe de nombreuses façons de briser, enfreindre le commandement de Dieu contre le vol. Nous devons donc être particulièrement vigilants et veiller à toujours être sur nos gardes. Neuvième commandement. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Ce commandement signifie essentiellement « tu ne mentiras point ». Dieu aime la vérité. Sa parole est la vérité. On trouve une liste des choses que Dieu déteste dans Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, où nous lisons « Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » Version Louis II. Parmi les six choses que Dieu déteste, Dieu d'entre elles implique le mensonge. Dieu veut que nous disions toujours la vérité. Nous devrions aimer la vérité. Puisque nous ne voulons pas que les gens mentent à notre sujet, Dieu commande que nous ne mentions pas au sujet des autres. Cela ruine la réputation et endommage le caractère et la bonne réputation pour lesquels il a fallu toute une vie à construire. Dans Jean chapitre 8 verset 44, Jésus a appelé Satan le père du mensonge. Nous ne voulons pas être coupables de suivre l'exemple de Satan. Dans le passé, nous avons tous été coupables de mentir, mais nous devons nous repentir et nous rappeler Proverbe 12, verset 22, où nous lisons « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Version Louis II. Nous ne pouvons pas rester dans la vérité sans l'aide de Dieu, parce qu'il nous dit aussi dans Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Version Louis II. Si nous le lui demandons, il nous aidera. Dixième commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Convoiter signifie avoir envie ou désirer d'une façon incorrecte. Cela va au-delà du simple fait d'admirer quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Cela inclut l'envie qui est un ressentiment du fait que quelqu'un possède quelque chose que nous n'avons pas. C'est une envie ou un désir ardent pour quelque chose auquel nous n'avons aucun droit. Nous lisons dans Hébreux chapitre 13 verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Version Louis II. ce commandement concerne la façon dont nous pensons plus que ce que nous faisons réellement. Comme tout péché commence dans le cœur, entre parenthèses l'esprit, il nous fait savoir que Dieu ne s'intéresse pas seulement à nos paroles et à nos actions, mais aussi à nos pensées. Pour combattre la convoitise, nous devons avoir la confiance que Dieu nous fournira un moyen de répondre à tous nos besoins légitimes. Nous devrions nous concentrer sur Dieu et sur ses instructions pour nous dans tous les domaines de notre vie, parce qu'il promet une grande paix à tous ceux dont l'esprit est fixé sur lui. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Si nous sommes concentrés sur Dieu et sur ce qu'il veut, nous ne céderons pas aux mauvaises pensées et aux mauvais désirs. Nous lisons dans Luc chapitre 12, verset 22 à 34. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Dieu nous montre que nous devons nous concentrer sur les choses spirituelles de la vie plutôt que sur les choses physiques. Résumé. Les 10 commandements sont résumés dans les 2 grands commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. Si nous suivons les lois de Dieu, notre Père sera très satisfait de nous. Lorsque nous avons une relation avec Dieu et son Fils Jésus-Christ, les 10 commandements deviennent écrits sur notre cœur. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Version Louis II. Proverbe 7, versets 1 à 3. Mon fils, retiens mes paroles, et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes, et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Version Louis II. Une façon de montrer à Dieu que nous l'aimons et l'apprécions est de suivre ses commandements. Nous lisons dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Version Louis II. 1 Jean chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Toute l'humanité pêche et enfreint les lois de Dieu. Dieu, dans son infinie sagesse, nous permet de nous repentir et de rétablir notre relation avec lui. Bien que Dieu ait appelé Abraham son ami, voir 2 Chroniques chapitre 20 verset 7, Ésaïe chapitre 41 verset 8, Jacques chapitre 2 verset 23, et qu'il ait appelé David un homme selon mon cœur, voir Actes chapitre 13 verset 22, ils n'ont pas toujours obéi aux lois de Dieu. Ils étaient des exemples de personnes qui obéissaient à Dieu, mais qui commettaient aussi de graves erreurs. Lorsqu'ils se sont repentis et ont apporté des changements, Dieu a de nouveau été satisfait d'eux. En lisant la vie de David et d'Abraham, nous pouvons voir ce qui s'est passé lorsqu'ils ont obéi à Dieu, par opposition à ce qui s'est passé lorsqu'ils n'ont désobéi et que les choses ont été plus difficiles. Le livre de la Révélation, entre parenthèses Apocalypse, nous montre que les saints de Dieu sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 14, verset 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Version Louis II. Puissiez-vous, vous aussi, suivre et toujours garder les commandements et vous repentir de vos mauvaises actions pour être comptés parmi les saints et avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22 verset 14. Bienheureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Version Martin. Pour les questions-réponses et les activités associées au commandement, voir les leçons suivantes. Leçon, le premier commandement, CB070-2. Leçon, le deuxième commandement, CB071-2. Leçon, le troisième commandement, CB072-2. Leçon, le quatrième commandement, CB073-2. Leçon, le cinquième commandement, CB074-2. Leçon, le sixième commandement, CB075-2. Leçon, le septième commandement, CB076-2. Leçon, le huitième commandement, CB077-2. Leçon, le neuvième commandement, CB078-2. Et leçon, le dixième commandement, CB079-2. Fin de la lecture de l'étude de CB017, des 10 commandements.